parole du jour avec le Père Willem.
Étrange christianisme. Certains spécialistes de la Bible savent depuis longtemps que la poésie biblique ne sert pas à donner simplement un surcroît de noblesse ou de sublime ou de force émotive à ce que l'auteur aurait pu dire en prose. Ils ont appris des critiques littéraires ce que les critiques avaient appris des poètes. La poésie est en elle-même une façon de penser et d'imaginer le monde. Elle ne découvre avec précision ce qu'elle avait à dire qu'en le disant. Le sens des poèmes qu'elle crée nous attend de leur manière d'être. Le sens, selon l'acception habituelle du mot, n'est d'ailleurs pas ce qui l'intéresse en premier lieu. Être attentif à la poésie biblique en tant que telle ne conduit pas à une appréciation purement littéraire du texte, mais à un effort vigoureux pour comprendre ce texte comme il veut être compris, pour le recevoir et l'assimiler tel qu'il est. La question demeure cependant, pourquoi tant de poèmes dans la Bible? Pourquoi tant de poésie? La réponse vient aussitôt si on considère la Bible comme une bibliothèque de livres purement humains, d'un intérêt remarquable mais fondé sur des croyances révolues. La présence de la poésie s'expliquerait par le don poétique des auteurs. Mais si on les considère comme la révélation d'un Dieu, quelles que fussent les modalités de cette révélation, et si on admet que les auteurs bibliques étaient inspirés d'une manière ou d'une autre à écrire avec tant de soin et d'exactitude la forme de leurs écrits, en nous laissant ainsi du sens, des messages à chercher dans les mouvements mêmes de leur langage. Au-delà de l'étude des structures de la poésie hébraïque et de la variété des poèmes qu'elles sous-tendent, ne convient-il pas de nous demander finalement si la présence de tant de poèmes ne change pas non seulement la façon dont la Bible nous parle, mais aussi le genre de message, d'annonce, d'appel qu'elle véhicule? Comment la foi doit-elle percevoir la parole biblique? Qu'implique ce virage continuel vers la poésie quant à la nature même du christianisme? Afin de répondre à ces questions, pensons d'abord à notre lecture de la poésie en général. Il ne nous vient pas à l'esprit de paraphraser un poème comme s'il y avait un sens à extraire d'une forme devenue par la suite redondante. C'est l'être même du poème qui nous importe finalement, les sons et les rythmes qui l'animent comme une chose vivante et les relations que les mots tissent entre eux en apportant leur mémoire, leur histoire et les connotations qu'ils dissimulent. Cela ne suppose nullement que nous lisions dans un état poétique excluant la raison, comme le voulait Henri Brémond dans Prière et poésie, paru en 1926, en commentant la différence entre le vers célèbre qui ouvre Endymion de Keats, le grand poète, a thing of beauty is the joy for the girl. Forever, forever the joy. Et le vers que Keats aurait d'abord écrit, a thing of beauty. Oh, the beauty. L'immensity of the beauty is a constant joy, the constant joy. Il exprime à juste titre non seulement dans le vers définitif le courant passé, un mouvement, un souffle, mais il affirme en même temps qu'entre une joie incessante et une joie pour toujours, la nuance intellectuelle, ces nuances de cet ordre il y a, est infiniment petit. Au contraire, elle est immense. Une beauté qui constitue une joie constante demeure dans la mémoire et nous accompagne dans la vie. Une beauté naturelle ou la beauté d'un récit imaginaire nous apporte la joie en ce qu'elle révèle ce qui transcende la vie. Voir la beauté, c'est entrevoir une sorte d'éternité. Croire à la Bible, ou plutôt croire la Bible, se laisser convaincre qu'elle est de quelque façon que l'envisage la parole de Dieu, c'est bien croire ce qu'elle dit, ce qu'elle exprime, avec une foi surnaturelle qui ressemble à une distance infinie à la confiance avec laquelle nous lisons un poème en acceptant que sa réalité se trouve en lui et non dans nos exégèses. Cela permet d'adhérer à la vérité en elle-même et en même temps inclure dans les mots et libérer par eux, quelle que soit la difficulté posée par le déluge, par exemple, ou la tour de Babel. Nous ne savons pas nécessairement la nature exacte de la vérité qui nous est révélée, mais nous savons où la chercher, comme nous ne comprenons pas nécessairement un poème, mais cherchons la réponse à nos questions dans le poème même, sans rien ajouter ni rien soustraire. La Bible, en tant que révélation et en tant que parole poétique, donne également et avant tout sur autre chose. Elle ne se développe pas uniquement sur des poèmes, bien évidemment, mais ses écrits se transforment souvent en vers, comme si elle tendait vers la poésie en la supposant la parole la plus appropriée à l'étrangeté, à la transcendance de ce qu'elle manifeste. Et pensant aux paroles de Jésus, il parle très souvent en parabole afin de présenter des vérités complexes sous forme de récits ou dans la vie de quelques personnages afin d'inciter ses auditeurs et nous, ses lecteurs, à chercher à chaque fois le sens aux multiples facettes d'une fiction. Ces affirmations en prose sont également poétiques en ce qu'elles ne se comprennent pas aussitôt. Elles demandent que nous les recevions comme nous recevons la poésie en prenant conscience du mystère qui les accompagne. En écoutant par exemple « Le royaume des cieux tout proche » ou « Ceci est mon corps » ou « Je suis la vérité », nous sentons autre chose que des propositions et nous reconnaissons derrière ces mots tout simples une sorte d'arrière-pays de signification qu'il faut explorer comme on explore les profondeurs d'un poème.